jouer au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
Parole de femme.
Nous sommes avec Dr Feliba, qui est sociologue sénégalaise, experte en genre. Docteur, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Le monde au féminin.
Bonjour Nathalie, merci de m'avoir invité.
Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous faire un petit portrait sur vous, c'est-à-dire un petit peu votre évolution, votre éducation, comment vous en êtes arrivé, où vous êtes aujourd'hui?
Voilà, je suis docteur en sociologie, je suis militante des droits humains, notamment ceux des femmes. Depuis 2006, je milite pour la question de l'égalité hommes-femmes au Sénégal à travers des organisations de la société civile. J'ai eu la chance d'abord d'être chercheur et mes recherches orientent mes actions sur le terrain. Le travail de militantisme que je suis en train de faire sur le terrain, c'est sur la base des recherches que j'ai eu à faire. Donc, j'ai mis en place récemment un réseau des féministes au Sénégal dans un contexte où il n'y a pas eu de mouvement féministe, parce qu'on a eu à l'époque, dans les années 80, le mouvement féministe fort qu'on appelait Yéyéyé en Wolof, c'est-à-dire conscientiser pour libérer. Et depuis lors, depuis 2000, il n'y a eu plus de mouvement. Entre-temps, il y a eu la montée des mouvements conservateurs dans un contexte sénégalais où la religion influence les politiques. Donc, il fallait mettre en place quelque chose, sinon on risque de régresser. Donc, je suis également mère de famille, mère de deux garçons, que j'essaie quand même de rendre féministe, parce que pour moi, tout le monde doit être féministe, parce qu'être féministe, c'est être humaniste. Donc, j'ai aussi un époux qui a quand même un regard, des réflexes assez féministes. Donc, du coup, j'ai un cadre privé quand même qui me permet de me ressourcer et qui me renforce dans mon travail sur le terrain.
L'on sait que vu par certains hommes et même par certaines femmes, le terme de féminisme a une certaine connotation un peu péjorative. Alors comment pourrait-on définir le féminisme pour qu'il soit vraiment compris?
Le féminisme, malheureusement, c'est un terme qui est mal compris. On dit souvent que c'est un concept qui est importé. C'est considéré comme péjoratif parce qu'on est dans un système patriarcal qui n'accepte pas le féminisme. Pour moi, être féministe, c'est construire des liens d'égalité entre les hommes et les femmes, en commençant par l'espace familial et à travers les différents niveaux, que ce soit l'espace politique, que ce soit l'espace professionnel, mais d'abord l'espace familial. Quand je dis construire des liens d'égalité, c'est dire à l'autre que nous avons les mêmes possibilités, les mêmes responsabilités, on a les mêmes droits, on a les mêmes opportunités qu'on est homme ou femme. Et ça, ça doit refléter tous les autres sphères de la société. Donc, commencer par le niveau social, culturel, c'est extrêmement important si on veut avoir donné des sociétés prospères et pacifiques et durables. Parce que travailler sur des questions féministes, c'est travailler sur des questions d'humanisme. Parce que l'objectif du féminisme, c'est de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, les pays ont compris qu'au-delà d'être une exigence morale et de droit, la question de l'égalité, c'est aussi une exigence économique, parce que tout simplement, on perd énormément. Et là, je peux mentionner les chiffres de la Banque mondiale, le rapport de la Banque mondiale de 2018, qui nous dit que les pays subsahariens perdent par personne plus de 15 000 dollars annuels. Voilà, donc aujourd'hui, beaucoup de pays ont compris et travaillé dans cette construction de liens d'égalité homme-femme est extrêmement important. Voilà, les pays travaillent, mais il reste beaucoup de choses à faire, d'action et de construction, parce que je pense que pour avoir cette effectivité de construction de liens, il faut déconstruire les mentalités.
Mmh. Alors, docteur Séliba, on va parler de plusieurs évolutions, hein, notamment au niveau de votre société, la société sénégalaise. Au niveau des lois, par exemple, est-ce que vous pourriez nous citer quelques lois dont vous seriez fier et, à contrario, peut-être, nous dire un petit peu ce qui manque au niveau de la législation en ce qui concerne les droits des femmes?
Le Sénégal peut se réjouir. Hein. Le Sénégal fait partie des rares pays où le cadre juridique réglementaire est en faveur de l'égalité homme-femme. Quand je prends la constitution sénégalaise, en 2001, on a assisté à ce qu'on appelle la constitutionnalisation de l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que c'est à partir de 2001 qu'on a changé dans la constitution du Sénégal et on a mis l'égalité homme-femme. Avant, on avait l'égalité entre les citoyens. Donc, c'est à partir de 2001 qu'on a identifié l'égalité homme-femme pour rendre favorable d'autres dispositions, comme notamment celle de la loi sur la parité. Le Sénégal a une loi sur la parité. Dans les instances électives, semi-électives, on doit avoir le même nombre d'hommes, le même nombre de femmes. Donc, cette loi, c'est depuis 2010, ce qui nous a permis d'avoir quand même 44% aujourd'hui au niveau du Parlement sénégalais, parce qu'avant la loi, on était à 20% de femmes. Donc, il y a beaucoup de progrès. Quand je prends, par exemple, la prise en charge de l'époux avec la disposition de 2006, désormais, la femme sénégalaise peut prendre en charge l'époux en cas de problèmes d'assurance maladie et des enfants. Ça, c'est une disposition qui nous a permis. Et quand je prends aussi la loi sur la nationalité de 2013, désormais, la femme sénégalaise peut donner sa nationalité à son époux qui est d'origine guinéenne, canadienne, etc. Au niveau des lois, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on peut être fiers de les citer. Malheureusement, on n'a pas tout réglé. Et par exemple, quand je parle de la famille sénégalaise, comme manquement, c'est que dans ce code-là, qui est fortement influencé par l'Occident, le mari reste toujours chef de famille. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les enfants restent les propriétés du mari. Et du coup, la femme a toute influence sur les enfants. Ne serait-ce si vous avez un enfant qui est malade, qu'on doit évacuer à l'étranger, il faut par exemple l'autorisation du mari et de l'époux. La femme n'a aucune autorisation, n'a aucune responsabilité sur l'enfant, alors que dans la réalité, on sait que les mères restent proches des enfants, les mères s'occupent des enfants. Le choix de résidence est entre les mains des hommes, à travers ce code de la famille qui a été voté depuis 70. Donc, depuis 1970, nous avons ce code qui est vieillissant et qui est le siège pour moi de la discrimination. Quand je prends aussi l'avortement, voilà, même si le Sénégal s'est engagé avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, où le Sénégal a ratifié, a signé par rapport à l'avortement, mais une fois au pays, on n'a pas pu appliquer, alors qu'aujourd'hui, l'avortement fait beaucoup de problèmes. Nous réclamons l'avortement médicalisé en cas d'inceste, en cas de viol, parce que dans les prisons de femmes, 40% de femmes sont en prison, pas tout simplement, elles ont avorté. Donc, c'est dit tout simplement qu'il y a du travail à faire, même si on a des droits qui sont là et on cherche à les consolider. C'est extrêmement important. On cherche à les consolider dans ce contexte où il y a cette montée des courants conservateurs, mais à côté, on a aussi d'autres revendications, d'autres droits qu'il faut aller chercher.
Alors, malgré ces carences hein, au niveau des lois, est-ce que tout de même les femmes ont un petit peu plus d'autonomie au niveau économique? Est-ce qu'on assiste tout de même à une évolution, notamment avec la nouvelle génération? Est-ce que vous le voyez au cours des 10 ou 20 dernières années?
Évidemment, on assiste à ce leadership féminin, que ce soit dans l'espace politique, que ce soit dans l'espace économique. Hein. Et voilà, il y a véritablement cette autonomisation économique des femmes. Quand je prends le secteur informel sénégalais qui représente 97% des travailleurs, aujourd'hui les femmes sont fortement représentées dans ce secteur informel. Malheureusement, elles ne sont que présentes en tant que chef entrepreneur, mais elles travaillent dans ce secteur-là. Beaucoup de petites et moyennes entreprises elles sont là-dedans. Voilà, elles affirment quand même en tant que responsabilité, elles sont dans des sphères, que ce soit ministérielles, que ce soit dans d'autres, dans le secteur privé. Oui, les femmes s'affirment et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience de plus en plus des conditions de femmes, la question de l'égalité. Il y a une prise de conscience et cette prise de conscience, pour moi, a été animée avec ce qui s'est passé au niveau mondial. Le mouvement MeToo a vraiment impacté le Sénégal et les gens ont pu domestiquer en tout cas ce mouvement. Donc, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de mobilisation en tout cas aujourd'hui sur les questions des droits des femmes et je pense que ça, c'est quelque chose à saluer. Et aussi le fait que les femmes se réclament rapidement féministes, ça on n'avait pas il y a cela des décennies.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Vous avez parlé tout à l'heure de la religion, vous êtes une experte hein, aussi en genre et religion, le pouvoir des groupes religieux sur le développement et les droits de la femme. Hein. Notamment, on sait qu'au Sénégal, on a des confréries qui sont très puissantes. Alors, de quel œil voyez-vous cela et de quel côté ça coince selon vous ?
Le problème que nous avons au Sénégal, c'est que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, c'est deux pouvoirs qui s'influencent mutuellement. La religion joue un rôle extrêmement important au Sénégal, surtout l'islam, parce qu'on a 95% de musulmans au Sénégal, donc il y a l'influence, une forte influence de l'islam dans la gestion politique. Je dis souvent que le Sénégal, c'est un pays laïque, mais quand il s'agit de voter une loi sur les femmes ou une disposition sur les femmes au niveau du Parlement, on a toujours besoin d'un argument religieux pour légitimer cette loi et cette disposition. Et pourtant, on est un pays laïque. Donc c'est pourquoi moi, je me suis intéressée à la religion, parce que je me suis dit, pour libérer les femmes, pour davantage consolider les droits des femmes, il faut retourner dans la religion, voir la partie qui met en avant les droits des femmes et qui met en avant la question de l'égalité dans la religion musulmane. Et ce qu'on appelle là la perspective féministe de l'islam. Donc on travaille aujourd'hui beaucoup sur cette perspective féministe de l'islam, c'est-à-dire une perspective qui valorise la question de l'égalité homme-femme dans l'islam. Et nous travaillons évidemment avec des acteurs religieux qui essayent de faire le travail de sensibilisation de ce côté-là. À côté de ce système, de cette pensée conservatrice, on a à côté quand même une pensée assez progressiste et on veut que cette pensée progressiste gagne plus de terrain, gagne plus de conscience, gagne plus de mentalité.
La question de la polygamie, hein, c'est un secteur encore sensible, c'est encore un sujet de discussion qui peut fâcher. On sait qu'il y a de nombreuses femmes qui d'ailleurs ne franchissent pas le pas de dire finalement ce qu'elles pensent à ce niveau-là et qui sont plus ou moins finalement prises en otage hein, dans ce système qui fait que quand on arrive à la mairie, même si on n'est pas d'accord pour que l'époux ait une deuxième femme, on ne le dit pas finalement.
Oui, maintenant, c'est important d'avoir un regard sur la polygamie aujourd'hui. Et je vois beaucoup de femmes intellectuelles qui préfèrent être dans des familles polygames. Ça, c'est intéressant. Parce que aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on appelle comment la polygamie devient une stratégie matrimoniale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent être dans des familles polygames parce qu'elles ont subi une pression et elles tiennent à leur liberté. Elles se disent que j'ai le plus de temps pour moi. Et mes responsabilités au niveau professionnel. Parce que je n'aimerais pas un mari derrière le dos, sacrifié, qui va prendre beaucoup de place, qui va trop me fatiguer, qui va plus me coller. Je vois beaucoup de femmes aujourd'hui qui voient que leur époux le week-end, parce qu'elles dégagent plus de temps le week-end, plus de temps le soir, etc.
Est-ce que c'est vraiment la principale raison de se dire comme ça, je n'aurai pas un mari sur le dos tout le temps, je serai moins fatiguée? Est-ce que c'est vraiment, selon vous, une raison sincère de leur part? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose là derrière?
Oui, c'est les femmes qui ont subi la pression. Parce qu'il y a des femmes qui disent carrément non, moi je ne veux pas, je peux rester autonome libre. Mais il y a des femmes qui subissent cette pression, qui veulent conserver notre espace de liberté. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai parlé un peu de stratégie matrimoniale. Donc voilà, mais moi je milite pour que la polygamie au Sénégal soit réglementée. Pour moi, il faudrait, comme là au Maroc, le Maroc a encadré la polygamie. C'est pas n'importe qui peut être polygame au Maroc. Parce qu'ils l'ont encadré à l'image de la religion musulmane. Et il y a certains pays comme la Turquie, la Tunisie qui ont complètement interdit la polygamie à l'image de l'islam. Parce que quand même, quoi qu'on vous dise, la religion musulmane reste foncièrement monogame si on lit très bien les textes, si on n'a pas cette lecture littérale des textes, si on a cette approche politique des textes. La religion musulmane
reste foncièrement monogame. Ce n'est pas l'islam qui a amené la polygamie. L'islam a trouvé sur place la polygamie. Donc la pratique de la polygamie, c'est fortement culturel, ce n'est pas fortement religieux. Donc ça aussi, il faut le dire. L'islam est venu pour réglementer. Et si il faut dans cette dynamique de réglementation, il faut que le Sénégal réglemente la pratique de la polygamie à l'image de la religion musulmane.
Docteur Séliba, en ce qui concerne les relations intergénérationnelles entre femmes, hein, par exemple, est-ce qu'on arrive à une sorte de communication ? Vous-même, vous avez dit que vous voulez rendre vos deux garçons féministes, mais est-ce que cela est assez courant dans la plupart des familles, finalement, de passer le relais et d'inciter ses enfants à accorder plus de droits aux filles et aux femmes ?
Oui, quand je prends l'exemple public sénégalais avec les différentes générations, déjà il y a des conflits intergénérationnels. Les anciens disent que les jeunes sont en train de dormir sur nos acquis. Elles ne font aucun effort. Les jeunes disent que vous n'avez pas transmis le flambeau, etc. Donc il y a ça, et nous on essaie d'organiser des espaces où on retrouve trois générations de féministes qui essaient de se parler ensemble, pour se comprendre, pour se découvrir, pour faire aussi des choses ensemble. Donc pour nous, c'est extrêmement important que les unes et les autres apprennent, les deux, pour pouvoir faire des choses ensemble. Mais encore une fois, on a ce problème vraiment de compréhension, surtout de la jeune génération, qui ne se parle pas beaucoup, parce que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas des espaces d'idées, des espaces de réflexion. On est plus dans ce retroussement de l'espace physique où il y a peu de débats de fond qui concernent les questions de société. Ça, ça nous manque énormément. Mais nous, on essaie quand même de mettre en place ces espaces-là pour échanger, surtout par rapport à la question des droits des femmes. C'est extrêmement important pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la démarche en termes de lutte.
Alors justement, docteur Séliba, à ce propos, hein, le patriarcat et ses conséquences dont vous avez parlé tout à l'heure, on sait qu'on a encore énormément de femmes qui ne voient pas leurs droits et qui veulent rester sous tutelle. Comment vous expliquez cela et finalement, comment convaincre ces femmes d'avancer un petit peu par rapport à leurs propres droits qui sont les premières questions qui les concernent réellement?
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sentent pas les discriminations, hein. Parce que vous savez, le patriarcat est dans nos vies, moi, vous, homme, femme. Parce qu'on a été éduqué dans un système patriarcat. De temps en temps, la personne essaie d'utiliser son pouvoir pour faire du mal à l'autre, malheureusement. On n'est pas dans ces relations horizontales, que ce soit dans les lieux de travail, même dans les espaces de société, de lutte entre femmes. On voit cet abus de pouvoir-là. Encore une fois, on a ça en nous. Et je pense que ce qui est intéressant avec cette nouvelle génération qui ne voit pas les inégalités, c'est de leur rappeler l'histoire. Qu'est-ce que nous en étions cela 50 ans ou 60 ans? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé là? Je pense qu'elles n'ont pas, beaucoup, elles n'ont pas ces informations-là. Beaucoup pensent que c'est naturel. Alors que c'est des luttes. Les droits des femmes, c'est des luttes. C'est des sacrifices qui ont été très douloureux pour certaines, qui ont été emprisonnées, etc. Donc c'est extrêmement important dans l'histoire de rappeler qu'est-ce qu'on a vécu et comment on a eu ces droits-là. Quelle forme de lutte? Comment on les a obtenus? Je pense que c'est ça qui manque et ça qui doit pousser en tout cas les Sénégalais et les Africaines à écrire leur histoire. Aujourd'hui, les femmes doivent écrire leur histoire. Les femmes africaines doivent raconter leur histoire.
Si vous deviez comparer l'évolution dans votre société, le Sénégal, avec d'autres pays ou d'autres régions ou d'autres cultures, quel serait le type, selon vous, de modèle idéal que vous aimeriez peut-être suivre, s'il y en a un?
Pour moi, toutes les cultures se valent. Et il y a cette diversité qui est une recherche.
Je voulais dire au niveau des droits des femmes, en englobant cette question-là en particulier.
Bon, malheureusement, même dans les pays de l'Ouest, je ne les envie pas. Quand je prends les États-Unis, qui se dit la plus grande démocratie, les États-Unis n'ont même pas 14 semaines comme le Sénégal comme congé de maternité. Nous, on a 14 semaines de congé de maternité. Et pourtant, c'est un pays qui se dit développé, c'est un pays qui respecte les droits des femmes. Aujourd'hui, le Sénégal est en avance en termes de ratification. Quand je prends, par exemple, la loi sur la parité, les États-Unis, ça n'existe pas aux États-Unis. Aujourd'hui, quand je prends le Parlement sénégalais, on a 44% de femmes, alors que quand je prends le Parlement français, ils sont autour de 35% de femmes. Donc voilà. Pour moi, chaque pays que tu prends, un côté, il y a des choses qui sont bonnes, de l'autre côté, il y a des choses qui restent, alors que toi, voilà. C'est un peu difficile de trouver un modèle en termes de droits des femmes, parce que quand je prends, des fois, je me compare à la Tunisie, où quand même ils ont interdit la polygamie, où ils acceptent le mariage mixte entre musulmans et chrétiens, quand vous êtes une femme, etc. Mais à côté, il y a le racisme, il y a le sexisme qui est fort, et ces droits-là ne sont pas effectifs sur le terrain, les gens ne vivent pas ces droits. Du coup, tu te dis, mais bon, tu vas te comparer à quel pays? Tu prends le Rwanda, où le Parlement, les femmes représentent 64% de femmes, mais tu te dis qu'ils sont arrivés là parce qu'il y a eu les génocides, etc. Bon, voilà, c'est très compliqué de me comparer à d'autres pays et par rapport aux droits des femmes. Je pense que le Sénégal reste un pays en guerre.
Docteur Sébiba, le rôle des hommes dans tout ça, je suppose que vous avez un époux qui est forcément compréhensif sur toutes ces questions-là. Mais le rôle des hommes dans tout ça, parce que, bon, on sait qu'il y a des hommes qui sont vraiment pour cette évolution des femmes, et il y en a d'autres quand même beaucoup qui bloquent le processus, ou en tout cas qui n'ont pas un franc-parler pour ces questions-là. Donc, quel est leur rôle aujourd'hui au Sénégal sur l'évolution des droits des femmes?
Les hommes ont toujours été dans le combat. Les filles sont pas nombreux. Parce que c'est difficile de vivre dans un système patriarcal et de dire qu'il y a des inégalités. C'est difficile de prendre du recul pour voir une petite inégalité là. Il y a des hommes qui accompagnent en tout cas ces actions, cette lutte. Parce que tout simplement, les questions des droits des femmes, c'est des questions de société. Par exemple, je donne l'exemple de la violence. Et par exemple, le viol, c'est une question de société. Et c'est tout le monde qui doit travailler, supporter là-dessus pour qu'on puisse changer l'affaire. Donc les hommes doivent jouer le rôle important. Soutenir ces droits-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de programmes qui travaillent pour avoir des champions qui sont impliqués dans la promotion des droits des femmes. Et je pense que c'est extrêmement important. Il faut davantage impliquer les hommes.
L'on sait qu'il y a une grande majorité d'hommes qui ne sont pas du tout pour cette évolution parce que ça présente un certain confort chez eux, à la maison, en société, etc. On parle de privilèges, on en est encore là finalement. Donc ces hommes-là, vous, qu'est-ce que vous préconisez pour les sensibiliser? Parce qu'ils ne sont pas faciles à convaincre. Tout de même, vous en savez quelque chose.
Oui, pour être facile à convaincre, il faut commencer par le niveau matériel. Il faut revoir les livres d'enseignement. Il faut mettre la question de l'égalité des genres dans les livres d'enseignement. Il faudrait construire des mentalités et la construction des liens d'égalité. Le niveau matériel, les livres, les jeux. Et c'est là qu'il faut construire cette conscience. Le début, le plus important, c'est la famille. Donc, la famille, l'école maternelle, l'école primaire, c'est extrêmement important. L'écran, les médias, les dessins animés, c'est extrêmement important. Ne serait-ce qu'on investisse sur les dessins animés, l'école primaire, la maternelle, la maison, qui est la famille, ces quatre espaces sont extrêmement importants pour construire des liens d'égalité. Si l'homme comprend cela, il y en a que des valeurs. Il faut impliquer ces valeurs-là à la femme et à l'homme, à la petite fille. Des petits garçons. Et c'est comme ça, cette personne plus tard ne va pas se dire que je suis en train de jouir des privilèges. Il va se sentir gêné, il va dire que mais finalement ça c'est une discrimination. Et moi je rencontre beaucoup d'hommes qui disent que mais ça c'est la discrimination, ça c'est un abus de pouvoir. Je ne vais pas dire que mes rôles et les responsabilités de ma tâche, de ma femme, se limitent à la cuisine, ça c'est irrespectueux, etc. On a besoin de ces hommes qui pensent comme ça, mais aussi on a besoin de ces femmes. Parce qu'il y a des femmes aussi qui réprimisent malheureusement le système patriarcal, qui sont très conservatrices. On a besoin aussi de ces femmes qui parlent comme ça.
Docteur Séliba, merci beaucoup pour toutes ces précisions pour Le Monde au Féminin de VOA Afrique. Je rappelle que vous êtes sociologue sénégalaise, experte en genre, militante pour les droits des femmes, militante féministe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous dit à très bientôt.
Merci beaucoup, Nathalie. C'était un plaisir.
Le Monde au Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.